Alors nous allons aborder un thème ce matin, j'ai annoncé dimanche dernier, c'est apprendre à bien vieillir. C'est très spécial, je ne l'ai jamais abordé parce que, étant plus jeune, je n'aurais pas osé le faire, étant donné que je n'avais pas encore expérimenté. Maintenant, dans 3 ans, j'aurai 80 ans, alors je peux me permettre d'aborder ce genre de thème. Et il nous concerne tous d'ailleurs, hein. Je pense que l'homme commence à vieillir dès sa naissance, hein. Alors, je vous propose 2 textes de base dans le livre des Proverbes d'abord. Bon, on aurait pu commencer avec les psaumes, enfin, Proverbes 16, verset 31. Proverbes 16, verset 31. C'est un texte très court. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, quand il en reste, j'ajoute. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Et une autre lecture dans le psaume 71, 2 versets. Psaume 71, alors les versets 9 et 18. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Et au verset 18, ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. C'est un très beau texte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retraite, même pour les vieux. C'est sûr. Alors, quelqu'un a dit, la jeunesse vit dans l'avenir, la vieillesse vit dans le passé, et l'âge mûr vit dans les soucis. Je pense que les autres aussi vivent dans les soucis. Alors, cette boutade suscitera sans doute une large adhésion. Vous savez que le vieillissement est le lot inévitable de chaque individu. Et on peut dire chaque individu qui échappe à une mort prématurée. La vieillesse n'est pas une maladie, c'est un âge de la vie. Et je pense que les uns et les autres, nous avançons vers l'hiver à force de printemps. Alors, c'est un processus normal de la vie, donc parfaitement honorable, à condition que l'on sache comment vieillir. Et savoir vieillir, je crois, c'est le chef-d'œuvre de la sagesse et aussi l'une des plus difficiles parties du grand art de vivre. Hélas, la plupart des personnes du troisième âge n'ont pas appris à vieillir, je dirais, dignement. Elles souffrent de ce que j'appelle, entre guillemets, le mal du siècle, particulier évidemment, qui les fait se sentir parfois abandonnés, parfois oubliés par ceux qu'ils ont élevés ou qu'elles ont élevés, et aussi parfois aussi délaissés par ceux qu'ils ou qu'elles ont aimés. Alors pourquoi devrait-il en être ainsi? Pourquoi, d'une part, la solitude de ceux du troisième âge qui voudraient être compris, et d'autre part, la solitude des jeunes qui les poussent à se grouper parfois en bande parce qu'ils n'arrivent pas justement à trouver l'amour qu'ils cherchent auprès de leurs aînés. J'ai été jeune aussi, il y a longtemps maintenant, mais c'était déjà le cas où les histoires de bande existaient. Moi, je suis parisien d'origine, hein, et les bandes existaient à Paris. Alors, il s'agit d'un manque, me semble-t-il, manque d'éducation convenable de part et d'autre. En réalité, on devrait commencer la préparation à la vieillesse, à la fois sur le plan physique et sur le plan mental, avant de cesser d'être jeune. Vieillir, en fait, je dirais, c'est organiser sa jeunesse au cours des années. Et à tout âge, on devrait apprendre à vivre avec joie et avec reconnaissance, sans prétendre être jeune quand on ne l'est plus, ça c'est la grande mode, ou être adulte quand on est encore tout jeune. Enfin, pour les dames, aujourd'hui, il y a toutes sortes de pommades pour effacer les outrances de l'âge, hein, les rides entre autres, et toutes sortes de médicaments aussi pour rajeunir. Mais chaque âge a son charme et ses avantages, ses intérêts, ses bénédictions également. Et bien entendu, il a également ses inconvénients, ses désavantages et aussi ses handicaps. Et lorsque l'on met l'accent sur le côté négatif en se lamentant sur ce que l'on a laissé derrière soi et sur les rêves qu'on arrive plus à réaliser, alors décidément, l'on se sent frustré, quel que soit son âge. Vous le savez, je pense, enfin pour les plus jeunes peut-être pas encore, mais quand on a acquis un certain âge, on vit avec beaucoup de pensées concernant le passé. On a très peu de projets, mais beaucoup de souvenirs. Alors, d'une façon générale, l'individu a l'esprit enclin à s'apitoyer sur lui-même, quel que soit l'âge d'ailleurs. Il voit le passé meilleur qu'il ne l'a été, et il voit le présent moins beau qu'il ne l'est en réalité. La vieillesse, je dirais, nous attache plus de rides dans notre esprit qu'au visage. Excusez-moi, mes frères et sœurs qui avaient de l'âge, mais j'en ai autant que vous. Donc, je reconnais que parfois, la vieillesse nous amène beaucoup de rides dans notre esprit, plus que sur le visage. Et c'est Montaigne qui a écrit ça, c'est pas moi. Hein, je répète, la vieillesse nous attache plus de rides dans l'esprit qu'au visage. Ça, c'est signé Montaigne. Et encore faut-il reconnaître que les rides de l'esprit sont beaucoup plus laides que celles du visage. Surtout quand on les laisse prendre de réelles formes qui s'incrustent en nous. Alors tout dans la nature subit le processus normal du vieillissement. Je vais prendre deux exemples. Une graine, par exemple, va donner naissance à une plante et ensuite peut-être à un arbre. Et ce dernier va grandir, il va devenir beau et fort, mais avec le temps, il vieillit, il se brise, il s'abat et il finit par disparaître. Second exemple, une simple feuille. Il suffit de constater ça, même quand on est parisien, il y a des feuilles. Hein. Alors, une feuille qui, au printemps, est toute verte et pleine de fraîcheur, va ensuite jaunir, va ensuite se flétrir en automne. Elle tombe et se laisse éventuellement emporter aux caprices du vent. Et nous sommes ainsi faits, en tant qu'hommes et femmes. Alors c'est notre Dieu, le Créateur suprême, qui a fait ce cycle de la vie, qui a créé ce cycle de la vie, allant de la naissance jusqu'à la mort. Et donc chaque phase, indubitablement, a ses charmes et ses beautés. Et aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ses handicaps. Surtout quand on prend de l'âge, les handicaps sont de plus en plus nombreux, hein, mes amis. Alors, dans l'esprit de beaucoup de gens, la vieillesse semble durer plus longtemps que la jeunesse. Et lorsqu'on ne se sent plus capable de relever le défi de la vie, eh bien, on veut alors détester ce qu'on n'a pas appris à faire ou à conquérir. En notre siècle, plein de paradoxes, il faut bien le dire, où l'humanité est parvenue à réduire le nombre des naissances et à prolonger la vie, eh bien, elle s'est fabriquée en quelque sorte une population de vieux, je dis le terme haïtien, une génération qui est considérée par certains comme superflue, dont elle ne sait que faire. Certes, on construit dans nos pays dits civilisés des centres d'accueil pour les gens « usés », entre guillemets. On construit des hospices de vieillards, plus ou moins confortables, mais quel que soit le service qu'ils peuvent nous rendre, ces lieux de refuge deviennent parfois les antichambres de la mort. Je vous invite, quel que soit votre âge, à aller visiter ce genre d'établissement et vous serez relativement édifiés quand vous en sortirez, parce que les autres y restent. Alors, ce dont la vieillesse a besoin, je dirais, c'est d'amour. Vous allez me dire, c'est une banalité. Pas tellement. C'est une réalité pour moi. Les personnes âgées ont besoin de se sentir aimées, surtout de la part des jeunes. Et chose ironique, ce dont les jeunes ont également besoin, eh bien, c'est aussi d'amour de la part de ceux qui ont vieilli, auxquels j'appartiens. Alors, je vais essayer de vous prodiguer quelques conseils pour les uns et pour les autres, et vous prendrez ce qui vous convient le mieux au milieu. Alors, quelques conseils maintenant à ceux du troisième âge et au-dessus. Troisième âge, c'est 60 ans, pour ceux qui ne savent pas. Avant tout, ayez toujours l'esprit actif. Conservez un vif intérêt pour les choses de la vie, pour ce qui vous entoure. J'ai remarqué une chose, quand on n'a pas l'esprit occupé, notre raison commence à démissionner. On ne s'intéresse plus aux choses et on ne s'intéresse plus aux gens qui nous entourent. Et cela devient dramatique au bout d'un certain temps. Et beaucoup de personnes vieillissent plus vite que leur âge parce qu'elles cessent d'être actives, au moins dans leur esprit. La retraite, dans bien des cas, les conduisant à l'inactivité, leur fait perdre le goût de travailler, le goût de produire, le goût de créer. On est de moins en moins créatif en prenant de l'âge. Et une vie de loisir, si confortable soit-elle, n'est en somme qu'une vie de paresse, c'est mon avis et je le partage, et cette dernière donc n'a jamais rendu personne heureux, c'est-à-dire une vie de paresse, de farniente. Alors, quel que soit votre âge, quels que soient vos handicaps physiques, conservez intact votre intérêt pour tout ce qui vous entoure. Tenez-vous également occupé en rendant service aux autres, en apprenant de nouvelles choses, en maîtrisant votre esprit pour mieux orienter vos pensées et vos activités. Ce qu'on appelle en termes de poésie la folle du logis, la pensée, eh bien, cette pensée, si elle n'est pas cultivée jour après jour dans notre vieillesse, elle va être comme cette feuille dont j'ai parlé tout à l'heure, elle va jaunir, elle va se flétrir, elle va s'éteindre. La vie n'aura plus cours dans notre pensée et tout deviendra morne à l'horizon. L'apôtre Paul, et on va le lire maintenant, c'est dans l'épître aux Philippiens, nous dit ceci dans Philippiens 4. Ça va venir. Philippiens 4, c'est le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, vous savez, ce monde-là de la pensée est un monde assez curieux. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais on soliloque beaucoup plus qu'on ne dialogue. Je veux dire par là qu'en prenant de l'âge, cette réflexion interne va s'accentuer parce qu'on a de moins en moins de monde avec qui parler. Les murs ne répondent pas en général. Et nous allons donc soliloquer davantage et faire une sorte en nous, une sorte de cinéma qui va ensuite devenir une réalité pour nous, alors que ce n'est que du cinéma. Alors, la retraite, donc, risque de nous conduire à cette forme d'inactivité cérébrale, inactivité physique également, parce que nous n'avons plus forcément les mêmes possibilités physiques de faire ce que nous faisions avant. Alors, ce genre de maîtrise de soi dont parle ici l'apôtre Paul vous permet non seulement de vieillir avec joie, avec reconnaissance et aussi avec une certaine dignité, mais encore, elle inspire confiance à ceux qui sont autour de vous et elle leur fait vouloir rechercher votre compagnie. Alors, certains sont complètement isolés parfois parce qu'ils ne souhaitent pas la compagnie des autres. Et plus on s'isole, je dirais mentalement, et davantage on va s'isoler physiquement parlant. C'est-à-dire que les gens qui nous entourent n'auront aucune joie à discuter avec nous. Alors certaines personnes pensent qu'afin de conserver un vif intérêt dans leur vie, elles devraient vivre comme si ou comme celles qui sont beaucoup plus jeunes qu'elles. Et c'est pour ça qu'on vend toutes sortes de produits anti-âge maintenant. On appelle ça comme ça. J'ai entendu ça à la télévision. Les produits anti-âge, ça vous efface l'âge d'un seul coup. Mais c'est une erreur. Il n'y a rien de plus ridicule qu'un âgé qui voudrait se comporter comme un gamin. Et la vieillesse à redouter n'est pas celle qui est causée par l'accumulation des années, non ? Mais celle qui est provoquée par un état d'esprit vieillot et négatif. Et ça existe même parmi les jeunes, ça. Excusez-moi, mes frères et sœurs jeunes. Il y a des jeunes vieux et des vieux qui ont encore l'esprit jeune. Oui, ça existe, des deux côtés. Alors cependant, cela ne signifie pas qu'il faut imposer à l'état physique des capacités qui le dépassent. Certaines personnes âgées veulent se persuader les autres qu'elles ont encore et toujours 20 ans. S'il est possible de triompher du vieillissement prématuré, je précise, il ne l'est pas du vieillissement naturel. Et avec l'âge, on est censé devenir plus prudent, plus stable, et on nous dit aussi plus sage, peut-être, j'ajoute. Alors, je vais vous lire un très court passage de la première aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 11. Voyons ça. 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. C'est l'apôtre Paul qui parle. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui est de l'enfant, etc. Vous pourrez lire la suite, elle est aussi intéressante que ce qui précède. Mais aujourd'hui, si nous avons de l'âge, il faut vivre, je pense, différemment que lorsqu'on était des gamins, des tout jeunes. Alors, un autre conseil maintenant. Surveillez également votre santé. J'essaie d'être pratique avec tous. J'en ai pas fini, n'ayez pas peur. Alors, surveillez votre santé. Elle a beaucoup à faire avec l'attitude mentale et l'attitude spirituelle. Si vous ne surveillez pas votre santé, observez également les règles qui régissent l'hygiène et la santé, hygiène mentale aussi, et hygiène physique. Avec l'âge, il est nécessaire de changer de régime. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire de manger beaucoup moins, et surtout de manger ce qui convient le mieux à un organisme qui fonctionne plutôt au ralenti, bien souvent. Avec l'âge, le corps n'est plus capable d'assimiler tous les aliments. Il faut le savoir. Et si quelqu'un de vos proches qui a plus ou moins votre âge suit un régime particulier avec succès, ne supposez surtout pas que ce même régime vous sera également bénéfique. La copie conforme, ça existe aussi dans tous les domaines. Alors, le contraire peut très bien se produire, c'est-à-dire ce qui fait du bien à l'un peut nuire à l'autre. L'exercice physique également joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé et en fonction de l'état de notre corps. Je sais bien, quand on est handicapé, je le suis, j'ai une carte d'handicapé, je ne peux plus faire ce que je faisais avant. On m'oblige à marcher une demi-heure par jour, on m'oblige à un tas de choses, j'exécute sans hésitation ni murmure, comme on dit dans l'armée. Alors, autre chose encore au point de vue conseil, ne pas médire des jeunes. J'ai de l'âge, je le reconnais, bientôt 77. Et c'est très facile de médire des jeunes parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'ils sont d'une autre génération. Je ne dis pas cela pour m'attirer le suffrage des jeunes, c'est terminé les suffrages. Lorsqu'on atteint le troisième âge, on a déjà, et je pense que vous êtes bien au courant, mes frères et sœurs de mon âge ou un peu plus jeunes, on a déjà acquis de vieilles habitudes qui sont bien enracinées, des opinions toutes faites et des idées bien arrêtées dans divers domaines. Je ne vous demande pas de dire amen. Ceux qui ont de l'âge ont fréquemment tendance à critiquer le comportement des jeunes ainsi que les motifs et le raisonnement de ces derniers. Je suis père de famille, j'ai élevé 2 enfants qui m'appartiennent, mais j'en ai élevé 15 au total. Alors je sais de quoi je parle. 2 seulement m'appartiennent, les 13 autres, j'étais le tuteur. Et je connais le comportement de la jeunesse. Ils ont pris de l'âge, ces jeunes, maintenant ils sont pères et grands-pères et de famille. Mais ayant eux-mêmes dépassé depuis longtemps ce stade de la vie, je parle des anciens, ils qualifient de déplaisantes les particularités de l'esprit de la nouvelle génération. Ils oublient que lorsqu'on est jeune, on a parfois des valeurs différentes ou des applications de nos valeurs qui sont différentes. De mon temps, c'était la mode zazou. C'est fini il y a longtemps. Je me peignais à la zazou aussi, autrefois. J'avais davantage de cheveux. Aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Mais il y a des habitudes prises par les uns et par les autres. Et je crois qu'un bon degré de compréhension entre les plus jeunes et les moins jeunes devrait avoir lieu dans nos milieux chrétiens. Le développement du caractère des jeunes nécessite du temps et nécessite de l'expérience, et non pas une critique incessante de la part de ceux qui sont parvenus à maturité. Avant d'arriver à maturité, vous étiez jeunes, comme le dit l'apôtre. Hein? On raisonnait comme des jeunes. Je suis dans l'Épître aux Philippiens, je croyais être dans le Corinthiens. Mais on n'avait pas la même mentalité qu'aujourd'hui, puisque nous avons acquis un certain âge. Alors maintenant, je vais m'adresser à la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui n'est nullement pire que celle des générations passées. Mon père jouait au couteau, je jouais au couteau. C'était une autre génération, pourtant. En fait, notre génération a plus de connaissances que celles qui ont précédé. Elle a également plus de potentiel et plus de talent que les générations qui ont précédé. Je ne suis pas en train de passer de la pommade aux jeunes, n'ayez pas peur. Ce n'est pas mon genre, j'aime bien dire les choses clairement, quelles que soient les générations. Et à moi-même d'abord, parce que je me suis dit ces choses avant de vous parler. Alors, ce qui lui manque, avant tout, à la jeunesse, c'est l'éducation qui convient et dont les adultes l'ont bien souvent privée. Et nous ne pouvons pas demander que l'on respecte, que l'on nous respecte, tout simplement parce que nous sommes âgés. Le respect ne s'impose pas. C'est, je pense, davantage par notre conduite et par notre propre comportement que nous obtiendrons ce respect, non pas parce qu'il faut. Alors, essayons donc d'apprécier les jeunes, de comprendre leurs problèmes, et pour ça, il faut penser. Des problèmes donc qui sont aussi difficiles à résoudre pour eux que les nôtres, pour les plus âgés. N'est-il pas vrai également que c'est nous, les adultes, qui avons formé les jeunes ? Beaucoup de ceux qui sont passés à l'école biblique là, de Bordeaux, eh bien, je les retrouve aujourd'hui, je disais à... Qui est ton nom ? David, oui, voilà, ça c'est sûr, je peux me rappeler. Donc, je disais à David tout à l'heure... J'ai vu des jeunes débuter alors qu'ils ne connaissaient à peine leur Bible, qu'ils n'avaient même pas lu une fois complètement, et ils sont aujourd'hui responsables d'église, responsables de mouvements, etc. Et ça peut paraître drôle, mais ils ont évolué dans le bon sens, heureusement. Donc, j'y reviens, n'est-il pas vrai que c'est nous, les adultes, qui avons formé les jeunes, qui les avons parfois éduqués, bien ou mal, et qui sommes les premiers responsables de leur comportement? Je sais bien que l'expérience des vieux ou des anciens, pour ne pas paraître vulgaire, n'a jamais servi aux plus jeunes. Je suis au courant de cela. Je vous dis, j'ai élevé 15 gosses au total, hein. Mais quand même, l'exemple que nous pouvons donner, même s'il n'y a pas de parole à la clé, l'exemple que nous pouvons donner de par notre maturité, soit spirituelle, soit morale, devrait pouvoir évidemment servir aux jeunes, parce qu'ils se rendront compte en vous voyant vivre, non pas en blabla, mais en réalité, en vous voyant vivre, eh bien qu'ils peuvent vous faire confiance ou pas. Alors, le rôle des adultes, y compris celui des personnes âgées, est donc d'éduquer les jeunes, de leur enseigner avec patience et amour la façon de vivre pour être heureux. Il y a un passage que je vais vous lire dans l'Épître à Tite. C'est au chapitre 2, versets 2 à 5. Voyons, Tite. Voilà. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, S-A-I-N-S, hein, dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alors, ce sont des données tout à fait pratiques. Il suffit de les lire et de les mettre en application après. Alors maintenant, quelques conseils aux jeunes. À vous qui êtes jeunes, et il y en a un bon nombre parmi nous, savez-vous que l'un des plus grands malheurs des personnes âgées, c'est de ne pas avoir des amis jeunes? Mes enfants, j'ai une fille qui a plus de 50 et quelques années, la jeunesse est partie là. J'ai un fils également, 40, je ne sais pas combien d'années. Plus on avance en âge et moins on a de contact direct avec la jeunesse. Plus on s'isole. Et on est prêt de penser qu'on a les meilleures raisons du monde pour vivre dans notre petite bulle. Alors, j'y reviens, vous qui êtes jeunes, eh bien, sachez donc qu'un des plus grands malheurs des personnes âgées, c'est de ne pas avoir en fait de contact avec les jeunes, de s'isoler. Un jour, vous serez à votre tour atteint par la vieillesse, je le souhaite pour vous. À votre tour aussi, vous chercherez des jeunes gens qui vous aimeront, qui vous honoreront, qui passeront un peu de temps avec vous et qui apprécieront peut-être vos conseils et qui peut-être aussi vous écouteront de temps en temps. Alors, vous ne voudriez certainement pas que la société vous mette carrément à l'écart lorsque vous atteindrez le troisième âge. Vous ne désireriez pas mener une vie dépourvue de sens, inutile, une vie de solitude. Alors, vous ne souhaiteriez pas attendre la mort dans l'antichambre d'un asile de vieillards. Alors, dans ce cas, pourquoi ne pas aider maintenant ceux qui sont dans cette situation ? Et je le répète une seconde fois, allez visiter des asiles de vieillards. Vous n'en sortirez pas forcément édifié, mais j'espère vous en sortirez avec beaucoup de compassion pour ces pauvres qui sont là. Je le dis et je vous le dis aussi à vous, si vous pouvez éviter d'être enfermé là-dedans, eh bien, tant que vous aurez vos facultés mentales et physiques, tant que vous pourrez marcher, eh bien, évitez ce genre de choses, parce que c'est atroce à vivre quand on est enfermé là 24 heures sur 24. Sans pouvoir bouger pour certains. Au début du XXe siècle, la durée moyenne de vie ou de la vie était de 46 ans exactement. Aujourd'hui, elle est passée à plus de 80 ans. Alors, grosso modo, pour les dames, ça va un peu plus loin. Et les hommes meurent en général, je ne dis pas prématurément, mais avant les dames. Parce qu'elles nous ont usés. Non, non. Il faut sourire un peu parce que c'est un thème ingrat que j'aborde. Alors, cela revient à dire qu'il y aura dans notre société de plus en plus de personnes âgées. Et c'est Sainte-Beuve, c'est un homme, c'est un écrivain du 19e, il a dit ceci, « Vieillir est ennuyeux, je le cite, « vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé de vivre longtemps. » Ouais. Donc, c'est le 19e siècle. Alors, lorsqu'on est jeune, on pense connaître les choses, en principe, mieux que les personnes âgées. Ça a été mon cas avec mes parents. Mon cas est difficile parce qu'il y a eu la guerre, etc. Je ne faisais pas confiance à mon père parce que je le connaissais à peine. La guerre nous a séparés pendant presque 6 ans. Quand il est revenu de la guerre, pour moi, c'était un étranger. Je répète, on a l'impression, quand on est jeune, qu'on a davantage de savoir que les personnes âgées. On a en quelque sorte le sentiment que les personnes âgées sont toutes vieux jeux, dépourvues de compréhension à votre égard, séniles même, mais ce n'est pas nécessairement le cas, ça peut arriver. Donc, dans les Proverbes, nous l'avons lu tout à l'heure, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur, quand il en reste, évidemment. Alors, ce n'est malheureusement pas toujours le cas, parce qu'on ne vit pas forcément selon les enseignements bibliques. Alors, cependant, s'il est vrai que les cheveux blancs, à l'heure actuelle, marquent plutôt les années, et non pas forcément la sagesse, il n'en est pas moins vrai que la sagesse des personnes âgées, acquise sous forme d'expérience, peut être utile à vous qui êtes encore jeunes. J'ai actuellement donc 52 ans de ministère pastoral. J'ai aucune prétention, j'ai simplement 52 ans de plus que des tout jeunes qui débarquent dans la vie chrétienne. Mais nous avons tous besoin d'apprendre les uns des autres. Quand j'enseignais donc à l'école biblique, enfin en Suisse et en France, je disais, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais j'ai beaucoup appris aussi de mes élèves. On les faisait prêcher, je pensais encore comme ça, là-bas, un petit quart d'heure, ça suffisait, même 10 minutes. Et au cours de ces prédications que j'ai entendues pendant des années, des dizaines d'années, en Suisse et en France, j'ai beaucoup appris des élèves. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas la science infuse, même, disons, une théologie spirituelle infuse, loin de là, et on a besoin d'apprendre les uns des autres, les jeunes des vieux et les vieux des jeunes. Alors maintenant, vous vivez peut-être seul, pour ainsi dire, au milieu d'un monde d'adultes, si vous êtes jeune, mais savez-vous que les adultes sont également seuls et que leur solitude résulte en partie, du manque d'amour dont vous vous plaignez en tant que jeune. Et dans une église locale, je pense qu'il est indispensable que jeunes et vieux, on le chante. Je n'ai pas de voix pour chanter, mais jeunes et vieux, Donc, jeunes et vieux doivent pouvoir affronter la vie chrétienne, je dirais sous des angles peut-être différents, mais avec un même degré d'amour entre les générations. Il n'y a pas, 0 à 20 ans, 20 à 40, 20 à 60, et au-delà, alors on n'en parle plus après. Non, ça ne devrait pas exister, ça, dans une église locale. Ça n'existe pas ici, non, c'est toujours ailleurs. Alors, lorsque vous abandonnez les âgés, vous vous privez peut-être de l'affection et aussi de l'amour que seuls sont à même de vous témoigner. Quand on a de l'âge, je le dis pour les plus jeunes, quand on a de l'âge, eh bien, l'amour pour l'autre est tout à fait différent. Il est désintéressé. Enfin, je l'espère. Oui, on ne sait jamais. Mais, ah oui, je me méfie, vous savez. J'ai assez vécu pour ça. Donc, notre amour pour les jeunes doit être désintéressé. S'il ne l'est pas, attention, il faut repenser les choses. Alors, quelqu'un d'un centre hospitalier disait, j'ai entendu, chaque année, des familles viennent déposer leurs vieux avant de partir en vacances dans les centres hospitaliers. Elles ne les reprennent jamais. Quelle honte et quelle tragédie. Comme les chiens au bord de la route, on les dépose, on ne les reprend jamais. Alors, vous l'ignorez peut-être, et j'en ai bientôt terminé, mais le fait est que, d'après la Bible, dans 1 Timothée 5,8, ceux qui ne prennent pas soin des leurs courent un grand risque. Vous lirez ça, je répète, 1 Timothée 5,8. Prendre soin des siens ne veut pas tout simplement dire pourvoir à leurs besoins pécuniaires, mais également respecter ses proches, les honorer et aussi les aimer. Je n'ai qu'un regret dans ma vie à propos de ma mère, c'est de ne pas lui avoir dit « je t'aime ». Je suis d'une génération où on avait peu de contact avec le papa et la maman. On était des hommes alors qu'on était encore des jeunes hommes. C'est-à-dire, on ne pleurait pas et il fallait que toutes les circonstances glissent et qu'on n'en ait aucune répercussion, tout au moins pour ceux de l'extérieur. Et je regrette de ne pas lui avoir dit, quand elle est décédée, c'était en 1974, je suis arrivé trop tard, j'arrivais d'Orthez, elle est décédée quand je suis arrivé. Et je n'ai pas eu le temps de lui dire, maman, je t'aime. Apprécier la jeunesse et la vieillesse est principalement une question d'éducation. C'est dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit au chapitre 6, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier, dit-il, commandement avec une promesse. » Et la suite dit « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors, vieillir, et j'en termine, ce n'est pas un problème, mais ne pas savoir vieillir comme il convient ou comme il le conviendrait, on est certainement un. À chaque âge, il me semble qu'il nous importe d'apprendre et de connaître nos responsabilités afin de les assumer fidèlement, non seulement à l'égard de ceux de notre âge, mais encore des personnes d'un âge différent et surtout du troisième âge ou des plus jeunes. Et enfin, alors la jeunesse ne sera pas gaspillée par les jeunes et la vieillesse elle-même ne sera pas réduite à de simples renoncements. Et le mot de la fin est le suivant, je l'ai tiré de David, oui, c'est pas toi, du roi David. Le psaume 23, verset 6, il est dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Si, évidemment, nous acceptons les principes bibliques de ce vieillissement qui est inéluctable pour les plus jeunes. À peine, je le disais tout à l'heure, avons-nous commencé à respirer ici-bas que nous commençons à vieillir. Je dis amen et nous prions. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la joie d'être ensemble, jeunes et âgés, et de vivre, Seigneur, l'instant que tu nous fais vivre, non seulement ce matin, mais la vie que tu nous prêtes jour après jour, car elle ne dépend pas seulement de nous, elle dépend aussi de toi. Merci de nous prêter un certain nombre d'années, Seigneur, que tu as toi-même déterminées. Et nous te bénissons à l'avance parce que nous voulons te rester fidèles jusqu'au bout, dans les petites choses comme dans les plus grandes, quel que soit notre âge, quel que soit, Seigneur, nos pensées. Veuille réformer en nous tout ce qui a besoin de l'être pour que nous puissions d'un même cœur et d'un même élan les uns vers les autres nous dire « Je t'aime en Jésus-Christ et je t'aime parce que nous avons un même dénominateur commun qui est le Christ vivant et nous t'en bénissons, Père, de pouvoir le dire et de pouvoir le vivre en lui. Amen.